Mec gueule.
Excuse-moi, j'ai un appel.
En mode avion, avec Fred Testo.
Bon, on va commander.
Vous êtes viande, poisson, vous pouvez manger tout, pas d'allergie particulière.
Ursin cocotte, c'est pas mal ça. C'est quoi,
ursin cocotte? On va vous faire goûter.
Ouais, ça m'arrive. Et puis je peux venir comme ça, avec ma femme, avec oui, des amis. C'est pas forcément, je suis pas dans le quartier uniquement parce que je suis au boulot. Des fois, je viens au Cinoche dans le coin.
C'est vrai que le quartier, il est chouette. Hein.
Moi, je suis. Les théâtres,
non. Ouais, mais enfin, c'est. Je sais pas comment on peut acheter ici. C'est cher.
Il faut être comédien. Hein.
Ouais, je sais pas. Toi, t'habites là?
Ouais. J'étais dans le Marais avant.
Mais c'est quoi, t'es proprio?
J'ai été propriétaire, mais maintenant je suis locataire. Hein.
Ouais.
J'ai rien à moi, hein, David. Attention. J'ai rien à moi, donc il ne s'agit pas de me piéger.
Quoi, ils sont déjà en train de...
Il y a le trésor public, c'est derrière.
Moi, David, ils ont des... je suis qu'un locataire et j'ai une BMW, mais je suis partenaire, je suis ambassadeur, donc je ne la paye pas, elle appartient à BMW France. L'abonnement, il est chez SFR, il est offert parce que j'ai fait une pub pour SFR. Donc j'ai rien à moi. Donc n'essayez pas de me piéger. La casquette, elle est offerte. C'est vrai.
Bon, alors on mélange hein, deux trucs. Parce que sinon, vous mettez des betteraves et l'oursin cocotte.
Ah, il est bon, hein.
Non, mais là, à midi, j'ai pas envie d'une viande. Mais je vois que c'est...
La côte de veau, elle est dingue ici. Hein. Donc on se met en mode avion, hein, David.
Mais moi, ils m'ont mis en mode avion. Après, ils m'ont branché sur Wi-Fi pour que je puisse quand même recevoir mes trucs. Ça commence quand on le sait, quand ça a commencé.
Mais en fait, on fait comme on veut, parce que c'est un montage après. Non, mais de toute façon, il n'y aura rien, il n'y aura pas de piège. Ça commence. Là, on est enregistré déjà à partir de maintenant. Tu me fais un signe ou pas? On est enregistré, voilà, ok.
Bon.
Vous êtes... Mais qui devient bizarre d'un coup. Bonjour David, je suis très heureux de vous recevoir dans cette émission. Dans mon émission. Mec, c'est comme ça en vrai. J'ai tellement. En plus, moi, je suis.
Merci, merci.
Nous, c'est une excuse pour bien manger, boire un coup.
Lui, il veut une côte de veau. Lui, il arrête pas d'en parler. Moi, je mange.
Franchement, je suis pas du tout viande, mais là, j'ai vu ça arriver l'autre jour. J'ai flippé, comme disent les jeunes. Les jeunes des années 90. C'est une tuerie. Qu'est-ce que je vais prendre du coup? Non, le lieu après. Je prendrai un poisson. David, vous boirez de l'eau. Ouais.
Ouais, de l'eau plate.
Là, ouais. Et moi, je prendrai du vin rouge s'il y en a, du Bourgogne. C'est bien, non? L'idée de se retrouver en mode avion, c'est quoi? C'est de découvrir des gens par des conversations où j'ai la chance de m'inviter au restaurant pour rencontrer des gens que j'apprécie. Où j'apprécie, et discuter, en fait, tout simplement, de savoir un peu le parcours ou pas. Et quand nous, on s'est rencontrés à l'époque...
Et je peux, moi aussi, oui. Essayer de...
Ah oui, bien sûr, ah oui,
de te connaître de plus et de...
On peut se parler normalement, en fait. Voilà. En fait, c'est ça, le but, parce que les gens, aujourd'hui, dans l'audio, ils peuvent écouter des séries audio, ils peuvent écouter des émissions de cuisine, ils peuvent écouter des documentaires et des conversations... Comme nous, entre nous.
Au resto.
Voilà, aujourd'hui, Fred rencontre David. Dit David Assouline. Voilà, après, on ne sait pas. Hein.
Dit, non, c'est mon nom. C'est mon vrai.
Ton vrai nom?
Ouais, et toi, c'est Fred.
Fred Testo, à la base.
Testo.
Testo. Mec, il s'est renseigné avant. Hein. Donc, il paraît que Pierre Lescure t'a dit que tu pouvais me parler.
Ouais.
Tu vois, ça, c'est un bon truc, déjà.
Non, mais c'était pas complètement comme ça.
Mais c'est intéressant parce que...
On était au dîner des auteurs à la SACD, et il était à côté de moi. À un moment donné, je lui ai dit, tiens, je vais faire un truc marrant. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas de problème, je vais y aller. Fred, il m'a demandé de faire une conversation au resto, libre, on va dire, qui fera... Ça sera un podcast.
Ouais.
Et il me dit, oh, tu peux y aller. Alors, est-ce qu'il y a un mec sur la place qui est fiable, qui a... Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de coup tordu, il n'y a pas de... Voilà. C'est Fred.
Non, mais ça fait plaisir. Merci, Pierre. C'est vrai que moi, j'ai eu envie de faire ça parce que justement, c'est d'aller un peu plus loin dans les rencontres avec les gens où tu te dis, on se voit dans plein de soirées, dans plein d'événements. Et en fait, on n'a même pas le temps de se poser pour un moment où en fait, on s'en fout de... On n'a même pas de début, même pas de fin. Et c'est ça qu'on voulait faire dans ce genre de podcast parce qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas intervieweur, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas travaillé sur ton sujet. Monsieur Assouline, d'où vient-il? Pourquoi est-il? Qui est-il? Existe-t-il vraiment? Et donc, non, moi, si j'avais une seule question à te poser, parce qu'en fait, je me suis rendu compte en te rencontrant, merci, je remercie Bastien. Hein,
qui nous sert de l'eau plate.
Ouais, qui nous sert de l'eau plate.
Ouais, exactement.
C'est de l'eau bénite, hein, c'est de l'eau corse.
Exactement. Allez, bon déjeuner.
Merci. Non, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte en ayant eu la chance de te rencontrer dans un dîner au préalable pour Sérimania, je crois.
Ouais.
C'est que. Tu es sénateur, moi j'habite dans ce quartier où existe le Sénat, donc 6e arrondissement de Paris. Et en fait, je me disais, mais il y a plein de gens, et même enfin, dans mon entourage, ou beaucoup de gens, et même moi-même, en fait, le Sénat, en te rencontrant, on n'imagine pas que les sénateurs ils puissent être comme toi, tu es normal, quoi. Enfin, un vrai mec normal qui discute très simplement avec les gens. Et qui fait des choses et dont le métier, c'est...
C'est pas complètement un métier, mais enfin...
Mais à quoi ça sert, le Sénat? En fait, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Donc, il y a un super jardin, le jardin de Luxembourg, visité par les touristes du monde entier et même par les Parisiens. Mais qu'est-ce qu'on fait au Sénat, en vrai?
Ah bah, au Sénat, c'est le Parlement en France est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Tout le monde sait ce que c'est qu'un parlement, c'est là où on fait la loi. On la discute et on la vote et elle devient, une fois promulguée, la loi pour les Français. Donc on connaît plus l'Assemblée nationale, on pense que c'est ça le parlement. Or le parlement en France est composé de deux chambres, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et tout ce qui se discute à l'Assemblée nationale se discute au Sénat. Mais... S'il y a un conflit, après des procédures que je vais t'épargner, de navettes, de discussions dans les deux chambres, si à un moment donné on n'est pas d'accord, eh ben c'est l'Assemblée qui a le dernier mot.
D'accord.
C'est pas nous. Ce qui n'empêche que quasiment toutes les lois sont énormément amendées, je dirais même améliorées, par le Sénat. Alors, la deuxième différence, c'est que c'est une chambre qui est élue au second degré, c'est-à-dire, c'est pas comme l'humour. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des élus qui nous élisent.
D'accord.
Donc le corps électoral, c'est pas l'ensemble des citoyens. C'est des citoyens qui ont élu des élus locaux qui, eux, vont élire les sénateurs. Après, si tu me dis ça caractère... Quand je suis rentré au Sénat, maintenant il y a longtemps, je suis un vieux sénateur, en fait. Ouais. Je suis rentré en 2004, j'étais le plus jeune sénateur. J'avais une vision beaucoup plus négative du Sénat qu'aujourd'hui je peux avoir.
En étant à l'intérieur.
Ouais.
Ouais.
Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une chambre qui se renouvelait très peu, qui était faite de notables, que des hommes, qui en général allaient au Sénat presque en fin de carrière, et donc étaient âgés. Donc bon, ça cumulait beaucoup de particularités qui ne ressemblaient pas à tous les Français. Quoi.
Ouais.
Et surtout à toutes les Françaises. Donc ça s'est beaucoup modifié, parce que quand Lionel Jospin était Premier ministre, il avait décidé, enfin il avait proposé, ça avait été adopté, que sur tous les scrutins où tu ne votes pas sur une personne, c'est-à-dire les scrutins uninominaux, ouais. Sur les scrutins de liste,
ouais.
À chaque fois qu'il y a un scrutin de liste, tu es obligé de mettre un homme, une femme, ou une femme, un homme, en alternance sur la liste. Donc ça... Au sénatorial, tu as beaucoup d'endroits où c'est à la proportionnelle, c'est-à-dire sur un scrutin de liste, et donc ça a fait rentrer des femmes. Ça a en même temps rajeuni, parce que les femmes qui rentraient étaient jeunes. Ensuite, il y a une loi sur le non-cumul des mandats.
Oui, ça, c'est
qui tu peux plus important. Diriger un exécutif, une mairie ou un département et être parlementaire. Donc, tu as fait rentrer encore... des profils différents.
Des gens plus motivés.
Et donc ça devient... Et puis, bon, un autre truc, c'est que comme t'es pas sur le feu de la rampe, les députés, en gros, ils sont dans l'actualité de tous les jours. Ils ont toute la presse qui est au, à la salle des quatre colonnes, ouais. qui va leur chercher une réaction et tout ça. Et donc, ils sont beaucoup dans la réactivité, dans la mise en scène, dans tout ce que vous voulez. Nous, on peut bosser sur le fond tranquille quand même. Et reconnu que nos débats et surtout les rapports qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de missions de travail sur des sujets, etc., sont très approfondis, très... En général, les spécialistes d'un sujet, ils vont chercher les rapports du Sénat. Parce que c'est la belle qualité. Voilà. Mmh. Donc ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. Après, ce que je suis, je ne peux pas dire que je suis encore complètement à l'image moyenne du sénateur en France. J'ai un parcours spécial, différent. J'ai une vie au quotidien encore aujourd'hui probablement différente, mais je suis convaincu qu'il faut ces deux chambres.
Oui, non, c'est
parce
très
que
important.
L'aller-retour, y compris, ça permet d'avoir du recul, ça permet de... Parce qu'à l'Assemblée nationale, déjà, la majorité, c'est le gouvernement, toujours.
Puisque bah oui, à chaque
ici,
fois,
c'est le gouvernement, bah oui. c'est la... Le Sénat, c'est un peu différent. Et donc, quand on est dans notre système, il est démocratique, mais il a des grandes défaillances. Il y a une défaillance, c'est que quasiment la totalité, à 80% de l'ordre du jour de ce qu'on discute à l'Assemblée, c'est le gouvernement qui le décide, qui nous propose des lois. On a peu de temps sur les propositions qui viennent de nous. Donc on a le pouvoir de dire oui ou non à ces lois, les amender. Donc quand ça arrive au Sénat, il y a un esprit plus ouvert et critique. Parce que c'est pas forcément la majorité ni les députés qui ont été élus parce qu'ils soutenaient le président de la République. Ils lui doivent tout, donc ils se taisent, donc ils sont bénis oui-oui. Nous, on a une légitimité qui vient d'ailleurs. Même quand on est mais, du même bord,
même
c'est
quand on est du même bord.
C'est pas lui qui nous a fait élire, en gros.
Et voilà. Et ça, c'est marrant parce que dans le quotidien, j'ai l'impression des gens... Comme le Sénat est plus derrière, plus un peu plus caché, pas dans l'actualité, les gens ne savent pas
ça. On dit à quoi
il sert. Ben voilà, c'est pour ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui en tant que citoyen.
En tant que Fred. Il y en a plein qui le découvrent. Mais c'est aussi parce qu'on on peut dire que le Sénat, à une époque, a donné le fer pour se rebattre.
Hein. Oui, certainement, certainement.
Il y avait des abus dans certaines pratiques... Qui ressemblait à une ancienne classe politique dépassée par rapport au monde moderne. Mais
oui, un peu une sorte d'ancien monde.
Ça a beaucoup bougé. Pas à rougir par rapport à l'Assemblée nationale.
Non, mais justement, mais, c'est pour ça que c'est important de mentionner ça et de l'expliquer. On a le droit de manger hein, pendant qu'on parle.
Oui, c'est vrai.
En fait.
Il faut un peu manger.
À chaque fois, on se dit, on parle, on croit qu'on est filmé. On n'est pas filmé, on est juste dans l'audio. Hein.
Oui, mais... Si...
Oh, mais ça, il l'enlèvera, ça, si on
tu
mâche
vois, quand...
trop.
Quand on mâche là,
mais ça, il l'enlève.
Et que...
Mais comme c'est pas un podcast sur la nourriture, on peut enlever tous ces bruits de... Très bon d'ailleurs.
Donc toi, t'avais cette image.
Non mais, j'ai une image de loin, justement du Sénat, où je te dis justement, un très beau jardin, le monde entier vient visiter, c'est écrit dans les magazines.
Il y a un beau musée. Oui, et t'es jamais rentré dans le Sénat ?
Je pense pas. Je suis jamais allé dans le Sénat.
C'est magnifique.
Mais je suis tous les jours dans le jardin.
On va dire que c'est un palais de la République. Et c'est probablement... Moi, je trouve que c'est le plus beau. Plus que l'Élysée. C'est... chargé d'histoire, mais aussi, c'est magnifique, quoi. Presque trop.
Après, ce qui est intéressant, c'est de poser la question, parce que le Sénat, là, comme c'est à part, pour apporter un autre... c'est un avis... d'ailleurs, c'est quoi ? C'est consultatif, c'est quoi ? C'est quoi l'avis du Sénat ?
Ah non, c'est pas consultatif. C'est pas on demande votre avis, vous le donnez, vous dites oui ou non, et nous... Non, on vote !
Ouais, voilà, ouais.
Il faut que... Je vais simplifier, parce que des fois, ça peut être plus complexe, etc. Mais une loi, elle arrive d'abord au Sénat ou d'abord à l'Assemblée. En général, le gouvernement choisit l'Assemblée souvent, parce que là, il est sûr que tout de suite, on va lui dire oui. et que ça ne commence pas par un non si le Sénat est plutôt critique. Donc, ça arrive à l'Assemblée, ils discutent, ils amendent, machin. La loi telle qu'elle a été amendée doit venir chez nous.
Ouais.
Donc, elle arrive, on l'étudie d'abord en commission, on amende après en séance publique. Et puis, une fois que ce projet est adopté au Sénat, ou rejeté, s'il est rejeté, bah, ça revient à l'Assemblée. Il y a une instance pour essayer de se mettre d'accord sur les désaccords, une fois qu'on a délibéré des deux côtés, qui s'appelle la commission mixte paritaire. Donc tu as une proportionnelle du Sénat, quelques sénateurs, et une proportionnelle de l'Assemblée nationale, quelques députés, dans les proportions
de
leur représentation, se réunissent et ils disent « bon, bah, là-dessus, on n'est pas d'accord, mais on peut trouver telle formulation, etc. Pour, » pour tout ce qui a été désaccord. Le reste est considéré comme adopté. Si on ne se met pas d'accord, donc on dit « la CMP a échoué », ça va dans les assemblées, et c'est le vote de l'Assemblée nationale, ça repart dans les assemblées, c'est le vote de l'Assemblée nationale qui sera décisif. Pour pas qu'il y ait de blocage. Parce que sinon... s'il y a la possibilité qu'une chambre annule l'autre, des fois tu ne vas rien faire parce que. Bon, donc il faut bien débloquer. Voilà.
D'accord.
Alors on aurait pu se dire, c'est pas nécessaire, ça ralentit, c'est antidémocratique parce qu'ils sont élus au second degré alors qu'il faut être élu directement par les citoyens. J'ai pensé un peu toutes ces choses-là, moi, avant d'arriver au Sénat. Aujourd'hui, je pense que non. Du moment qu'il n'y a pas de blocage possible, puisque le dernier mot vient à l'Assemblée nationale, qui est une instance élue directement par les citoyens, le fait qu'il y ait une chambre qui soit qui puisse être parfois un contre-pouvoir, et c'est le cas aujourd'hui, sur plein de trucs. Ouais. Donc, voilà, c'est utile. Enfin bon, voilà, moi, j'étais pas destiné à être sénateur. C'est les hasards de la vie. D'abord, j'ai jamais considéré que la politique était un métier. Même si ça doit être une fonction faite avec sérieux et il faut un peu de professionnalisme quand on est en responsabilité. Mais moi, je suis né au Maroc, dans la montagne berbère, dans un petit village, comme tous mes ancêtres. À l'âge de 8 ans, je suis arrivé en France, à Creil, dans une cité HLM, où mon père a recommencé sa vie. Il a trouvé un petit boulot au SMIG à Paris, il faisait la navette. J'ai fait mon adolescence là-bas. J'étais un fouteux de malade, je jouais au foot toute la journée. Et j'étais très, 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 très... féru d'histoire. Je voulais être archéologue, mais j'aimais l'histoire. Et donc, ça va. Tout va bien, j'ai pas fini, parce que je parle trop, en fait.
Non, mais c'est intéressant, on veut qu'il parle.
Allez, je me remets à la betterave.
Archéologue.
J'aimais l'histoire, j'aimais l'archéologie, mais fouiller, j'allais dans les champs de patates, et on ramassait des fossiles, des machins. C'était marrant. Bon, et puis, très vite, très jeune, très révolté par tout ce qui était racisme. Peut-être parce que j'étais un exilé, que j'arrivais, j'avais l'impression qu'il fallait me faire accepter, qu'on pouvait me regarder comme ci ou comme ça.
Ah bah oui, déjà, ouais.
Mais, en général, même le racisme sur les autres, qui n'est pas sur moi, ça me... Bon, donc, très vite, je faisais des trucs, je me suis engagé assez vite au lycée après, tout ça. Dans ces combats.
Prendre ma responsabilité, en fait.
Dans ces combats. Ah ouais. Puis j'étais un révolté, donc j'aimais bien combattre l'ordre. L'ordre des puissants, on va dire. Ouais. Ou l'ordre établi, enfin bon, voilà.
Non, mais c'est marrant, parce que forcément que ça vient de... Tout ce qu'on est aujourd'hui vient d'un...
Oui, il y en a qui...
De petits.
Il y en a qui s'assoient dessus quand même, en vieillissant, mais... Moi, j'ai quand même essayé de garder à peu près les mêmes boussoles. Après, je vois plus les choses de façon forcément aussi manichéenne ou quoi.
Non, mais forcément.
Mais globalement, j'attache beaucoup d'importance à rester fidèle à des fondamentaux de la vie. Même quand tu es tenté, parce que tout le monde est tenté de baisser prix sur un certain nombre de choses. Je me bats beaucoup pour que non. Et puis, alors, ça m'aide parce que je reste au contact en général de tout. Moi, mes amis, c'est mes amis, donc c'est les mêmes. Ils sont postiers, ils sont ci, ils sont ça.
Ça, c'est important, moi, c'est pareil.
Il y a mes mômes qui... je vis dans le 20e. Mes mômes, ils ont grandi dans toutes les écoles, lycées, machin, du 20e, quartier populaire, où, voilà, je vis, je fais mes courses depuis 40 ans. Maintenant, depuis que je suis arrivé à Paris, donc... Donc, je bien sûr que je ne me suis pas... si je m'étais extirpé, si je m'étais transplanté dans un autre univers que celui qui était le mien, peut-être que j'aurais été plus...
Non, mais ça aurait pu
perméable
arriver.
À du n'importe quoi. Bon, ça m'a aidé à... Non, mais parce probablement.
Que, toi, aujourd'hui, de là d'où tu viens et devenir sénateur, c'est quand même un grand écart énorme. Moi, j'ai des camarades dont je ne citerai pas le nom, qui sont comédiens comme moi, et qu'à un moment donné, ils n'ont pas supporté le choc. Aujourd'hui, ils sont partis dans un autre monde. Moi, c'est des gens que je ne fréquente plus, par exemple. Moi, comme toi, je n'ai pas connu de... Je viens de rien du tout. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas supporté le truc.
Quoi, de rien du tout? D'où tu viens?
Non, mais...
Faut que tu parles aussi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est marrant dans le changement. À un moment donné, tu suis tes idéaux ou tes convictions, tu arrives à quelque part... Mais moi, ce que je vois aujourd'hui quand je te parle, c'est que tu n'as pas une posture, tu n'es pas impressionné par, tu fais quelque chose. Tu es arrivé là, bah, comme moi, je suis comédien, mais j'aurais pu être restaurateur patron d'un truc de vêtements. J'ai travaillé dans les vêtements. Pourquoi pas, on me l'a proposé. Donc on ne sait pas, on arrive à un moment donné, puis finalement, ça nous correspond bien, puis on a des choses à défendre, c'est ça que je veux dire. Mais c'est que... Ce qui est génial, c'est de se dire que toi, aujourd'hui, c'est ce que tu me dis là, c'est que tu es arrivé à un truc, à un moment donné, mais que tu gardes quand même toujours, voilà. Moi, j'ai toujours les mêmes potes d'enfance, c'est pareil, la même bande, et que tu fais quand même quelque chose dans un endroit qui est très important, le Sénat. Je pense que le Sénat est plus important que mon métier de comédien, même si sur certains projets...
Je sais pas si on peut non, c'est parler pas plus, d'importance, plus ou moins. C'est pas le mot.
Non, c'est pas plus ou moins. Ouais,
c'est une autre non, mais fonction, c'est...
Mais, ça, ça peut changer la vie des gens. Alors moi, c'est plus des émotions ou des projets mis en avant, mais toi, c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est génial, c'est de se dire qu'à un moment donné, tu n'as pas... t'as pas bougé, quoi, dans ton...
Dans
tes idéaux de départ. Parce que comment... Alors, tu dis...
Alors, bon, après, moi... j'aime pas parler de ça parce que ça peut donner des mauvais conseils aux jeunes. Je l'ai caché longtemps à mes enfants, mais après, ils l'ont su. Mais moi, après, je suis au lycée, je fais grève et tout, je me fais exclure de tous les bahuts. C'est-à-dire que je suis en seconde. Ma mère, la pauvre, elle allait essayer de m'inscrire partout parce que mon lycée m'avait vidé. Ils se téléphonaient entre eux, ils disaient non. Bon, donc, je fais des petits boulots et je passe mon bac en candidat libre. Donc, je l'ai eu. Je déboule à Paris et je m'inscris à la fac et je fais histoire. Je m'inscris en histoire. Ah, donc là, je fais ce que j'aime, mais de façon quand même pas assidue à fond. D'abord, je bosse en même temps, je suis obligé pour vivre. Pas, ni mon père ni ma mère qui peuvent me payer au-delà de quoi vivre. Donc... comme beaucoup à l'époque, hein, les jeunes, on est obligé de se débrouiller.
Ouais.
Donc je fais animateur dans un foyer de jeunes travailleurs, je fais ouvrier à Flins, en 3-8 à l'usine Renault de Flins, je fais coupeur de verre et de bois, je fais tous les petits boulots en même temps que j'étudie et que je deviens un militant de plus en plus engagé.
Ah oui.
Je suis parmi les initiateurs de la marche dite des beurs, la marche de 1983 pour l'égalité, qui avait fait émerger une génération de jeunes de banlieue. Et après, juste quand je vais arrêter d'aller à la fac, parce qu'il faut quand même maintenant, je venais d'être nommé prof auxiliaire, ça, MA, c'est-à-dire remplaçant, à Noyon.
Ah oui.
Prof d'histoire géo dans un lycée technique à Noyon. Je venais d'être nommé, et comme tout le monde jugeait que j'avais un peu d'expérience, et surtout que ça correspondait un petit peu à ce qu'ils souhaitaient, j'ai été élu porte-parole de ce mouvement national.
Oui, donc là, c'est pas pareil.
Bon, là, c'était... d'un coup, voilà, je passe à un stade, disons, où l'engagement tout fou, parfois, ne peut plus être tout fou, parce que tu sens que ce que tu vas décider, ce que tu vas dire, ce que tu vas décider, prête à conséquence.
C'est-à-dire c'est plus pareil.
Ouais, surtout après, quand il y a eu la répression, les voltigeurs, Malik Oussekine est mort. Là, tu sais que tu es en responsabilité quand même. Donc ça, c'est un moment pour moi. Ah. C'est un moment important. Parce que c'est le moment où l'engagement, c'est pas seulement mes valeurs, ce que je crois juste, et puis je m'en fous du reste et tout. C'est, oh, ça pèse sur le pays. T'as Chirac au gouvernement, t'as Pasqua qui m'attaque nommément. Tu te dis, ok, c'est le ministre de l'Intérieur. Qui est pas un marrant.
Non. Là, c'est chaud.
Là, c'est chaud, mais aussi, tu peux pas dire n'importe quoi. Parce que ça peut avoir des conséquences.
Tout a une conséquence.
Mais c'était magnifique, ce mouvement. C'était une génération, vraiment, bonne génération. Tous les gens, les filles, les garçons de cette époque qui ont fait ce mouvement d'une façon ou d'une autre, que je rencontre encore, parce que se souviennent de moi parce qu'ils ont fait ce truc-là. Et c'était le début aussi de la médiatisation pour... La télé devenait un outil de communication des mouvements, des jeunes... On était assez à l'aise d'ailleurs, alors que ceux d'avant, ils faisaient des cours pour passer à la télé, les politiques et tout ça.
Ouais, c'est vrai, ouais.
C'était naturel.
C'était facile pour cette époque-là déjà. Ça commençait à être facile.
Commençait à être plus naturel. C'était le tout début, mais c'était surprenant. Voilà, donc le mouvement étudiant. Et puis ensuite, j'arrête, je bosse. Je suis prof d'histoire géo. Et alors imagine-toi, il m'arrive un truc de dingue. Je suis nommé au lendemain de ce mouvement, prof, parce que Noyon c'était un peu trop loin, et j'avais des menaces de mort et tout ça. Et donc, ils ont décidé de me rapprocher un peu de Paris. Et ils me nomment à Creil, dans le lycée qui m'a vidé. Et dans mon bulletin, le dernier que j'ai eu, de bulletin en seconde, il y avait écrit « inapte au travail scolaire ». Et j'arrive dans la salle des profs, avec le même prof qui m'avait vidé, et les élèves qui me faisaient des haies d'honneur. Parce qu'ils avaient fait grève. Ils m'avaient vu à la télé, tout ça. Donc ça, ça a été un petit moment sympa.
Et comme puis, quoi, il n'y a pas de hasard. Hein.
Ouais.
C'est impossible, en fait.
Ouais. Je sais pas... Ouais, c'est comme un petit machin comme ça, parce qu'après, très vite, c'était un remplacement. Donc, ça a duré 3 mois.
Quand même au même endroit.
Ça a duré 3 mois. Et...
comme une histoire de boucler la boucle.
Exactement, c'est boucler la boucle.
Et après, il y a eu un retour politique, du coup.
Non, le truc politique, c'est je te passe, après, je m'engage politiquement, etc. Mais j'étais plutôt critique. Critique du PS, critique du PC, j'ai cherché une troisième voie à gauche, enfin bon. Et puis, en 95, il y a le candidat socialiste du 20e arrondissement, qui s'appelait Michel Chardin, me demande d'être sur sa liste. Bon, je suis un habitant du 20e, connu, Donc, il dit, je veux ouvrir à des gens qui ne sont pas forcément... dans un parti, mais qui sont connus pour leur engagement. Bon, donc je fonce. Et puis après, je rentre au PS. Donc je suis élu conseiller d'arrondissement municipal. Oui. Pas conseiller de Paris, juste de mon arrondissement.
Et là, t'arrêtes d'être prof.
Moi ? Non, tu peux pas. Tu gagnes même pas.
Oui, parce que tu gagnes rien en faisant
ça.
Tu
gagnes rien. Tu gagnes un peu. Tu as une petite indemnité, mais pas.
Oui, mais voilà,
tu peux rien faire avec. Donc, entre-temps, j'ai eu deux gosses en 90 et en 92. Je cours partout.
Ouais.
Je fais un film sur l'histoire des Juifs du village où je suis né, dans le Moyen Atlas au Maroc, ouais, qui est passé sur Arte, qui s'appelle Entre Paradis perdu et Terre promise, un doc.
Un documentaire,
ouais. Ouais. C'est passé dans les mercredis de l'histoire, c'était à 20h30. Et avant, tu te disais, ouais, Arte, personne ne regarde, sauf qu'il n'y avait que cette chaîne. Moi, à 20h30, j'ai fait 1 million. Il y a 1 million.
C'est énorme.
Parce qu'il n'y avait que cette chaîne. Donc, c'était résiduel. 900 000, 1 million.
Ah ben, c'est énorme.
Et puis, après, en 2001, j'ai été élu conseiller de Paris et plus seulement conseiller d'arrondissement. Ah oui. J'étais en charge des universités adjoint.
Mais à quel moment
Mais on m'aurait dit, une fois, je ne pensais pas que ça allait occuper toute ma vie, parce que même quand j'étais conseiller d'arrondissement ou adjoint au maire, j'avais gardé un demi-poste de prof. Je tenais à continuer à enseigner. Après, tu n'as pas le droit, quand tu es parlementaire, le principe de la séparation des pouvoirs fait que tu n'as pas le droit d'exercer un métier de fonctionnaire, parce que c'est un métier d'exécution de l'État. Or, moi, je suis dans le législatif. Tu ne peux pas être dans le législatif parlementaire et avoir un poste d'exécution des lois.
D'accord.
Le fonctionnaire est dans cette situation. Et donc, je n'avais plus le droit d'enseigner. Donc, j'ai arrêté. Et j'aurais bien aimé garder un petit peu, parce que ça, mine de rien,
ben ça, c'est dommage,
ça te
quand même
fait garder un pied dans quelque chose. Oui, mais en même temps, pour être honnête, si tu fais vraiment ton boulot de parlementaire,
mais t'as pas le temps.
Tu peux pas faire autre chose. Alors bien sûr, il y en a qui glandent.
Ouais, bien sûr, mais comme dans tous les métiers.
Mais si tu le fais sérieusement, c'est pour ça que c'était pas bien de continuer avec le cumul des mandats. Ceux qui disaient qu'ils pouvaient être maire en même temps que parlementaire, c'est où ils faisaient bien l'un et ils faisaient mal l'autre.
Bah oui, c'est sûr.
Très souvent, on les voyait pas d'ailleurs au Sénat.
Ah oui, c'est impossible. Tu peux pas être au four.
Moi, j'étais adjoint au maire de Bertrand Delanoë jusqu'en 2004, quand j'ai été sénateur. J'ai décidé de démissionner d'adjoint au maire. Rien ne me l'a obligé.
Ouais.
Puisque la loi, elle est arrivée, la loi sur le non-cumul, elle est arrivée en 2014
oui, c'est après, hein.
Ou 2013.
Ouais, c'est hyper récent, en fait. C'est ouf. C'est que si tu travailles vraiment, tu peux pas faire autre chose à côté, hein.
C'est marrant ce truc-là, je sais pas comment il fait ça.
C'est très bon, hein.
Ouais, c'est bon. T'as pris quoi t'étais sur la viande et d'un coup tu prends du poisson, toi.
Si t'avais pris de la viande, j'aurais pris de la viande avec toi.
Mais vas-y alors.
Non, je me dis.
Raconte-moi, toi.
Non, mais un truc qui m'intéresse, qu'on est là pour toi, hein. Moi on s'en fout. Hein. Souvent en discutant avec des potes, les gens se posent la question, ils disent mais. Alors ça concerne peut-être pas le Sénat, là, en l'occurrence, mais... Et pourquoi pas, mais... Dans une entreprise privée, quand tu es avec... Donc t'as un patron, t'as un mec au juridique, ressources humaines, ce que tu veux, des avocats, des employés, des gens à la com, etc. Enfin bref, tout le monde est dans le même immeuble.
Ouais.
Et pourquoi l'État français... Donc c'est... Ça n'a peut-être pas à voir avec le Sénat, mais... que c'est en dehors pour justement un petit peu contrôler tout ça, mais pourquoi l'État français, on ne se dit pas aujourd'hui on mettrait tout dans un endroit, genre, je ne sais pas moi, soit Porte de la Chapelle, qu'on est près du Bourget et de Roissy, soit à école militaire, parce que il y a peut-être des bureaux vides, et on mettrait tous les ministères et tout le monde ensemble pour que... Moi, je suis ministre de la Justice, j'ai envie d'aller voir le ministre de l'Économie, j'ai pas besoin de descendre, de prendre mon escorte, parce que les gens ne connaissent pas quand t'es en province, mais quand t'es à Paris, que t'habites dans ce quartier, c'est ça toute la journée. Les gens qui passent, des motos, des gyrophares, et moi, ça me fait rigoler, parce que je vis dans la fiction, comme je suis comédien, mais tout le monde n'est pas comédien. Et je suis même, des fois, moi-même flic ou magistrat, ouais. Ou prof. Mais juste, est-ce que ça serait pas mieux ? Il y aurait pas un jour une idée comme ça où on mettrait tout le monde ensemble ? Ou est-ce que ça serait pas mieux pour le pays ? Pourquoi les ministères sont dans des endroits complètement différents et qu'on peut pas travailler tous ensemble ? Et le Sénat est à part, je suis d'accord, parce que
non, mais c'est déjà, un si rôle à part. Si tu vois pas mal de bagnoles, machin, c'est parce que justement, il y a le Sénat. Une fois par semaine, t'as les questions d'actualité. Les questions d'actualité, c'est une séance qui dure 1h30. T'as tous les ministres là, tous.
Ouais, ils viennent tous.
Premier ministre, tous les ministres. Et on leur pose des questions, ils doivent répondre. C'est retransmis en direct. C'est les moments les plus... où il y a le plus de monde, où il y a le plus d'attention sur... Et donc, quand t'as tous les ministres avec leur bagnole, et certains, le ministre de l'Intérieur, le ministre... Premier ministre, ont des plusieurs voitures et des motards.
Non, mais ça, je suis d'accord sur la sécurité, bon. mais dans non, le fonctionnement de l'État en lui-même, est-ce que demain, l'Élysée, ça pourrait pas être un musée qui nous rapporte de l'argent ? Ou quand il y a un président important, on fait une grosse fête, mais ça nous rapporte de l'argent tous les jours, parce qu'on le fait visiter par les touristes, et que tout le monde travaille dans le même bâtiment, bah, par exemple, l'école militaire, moi qui habite le quartier, école militaire, ça serait très bien pour mettre tous les ministères, tu restes dans Paris, donc tu as encore la classe de Paris, parce que Porte de la Chapelle, je pense que ça se fera jamais.
Moi, j'aime pas les Big Brother, là. J'aime pas les gros endroits comme ça, où il y a tout, où tout est concentré.
Non, mais c'est une question, hein.
Ouais, mais je l'entends comme ça. Moi, le fait que les ministères, c'est des endroits très centralisés. Chaque ministère est lui-même l'émanation de dizaines de directions régionales, départementales, qui dépendent du ministère, oui, oui. Qui agitent. Donc, d'un coup, là où tu as raison, c'est qu'il faut plus de transversalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus le temps passe, plus les sujets dépendent les uns des autres. Ouais. Et donc, qu'il y ait plus de dialogue, d'interaction entre les uns et les autres sur chaque sujet. Oui, mais ça, ils peuvent l'organiser. Le Premier ministre, normalement, est fait pour ça. Ils ont un conseil des ministres une fois par semaine. Mais tout ce qui permettrait ou permet sur chaque sujet d'avoir plusieurs ministères ensemble et que le citoyen sache, au lieu de taper à 10 portes, des guichets uniques, on appelle ça les guichets uniques. Ça, c'est bien. Je suis d'accord sur l'idée.
Moi, je dis ça dans le... Enfin, je trouve que c'est... Dans chaque entreprise privée, ça veut pas dire que c'est le bon modèle, mais t'as quand même... Moi, quand j'étais à Canal, t'allais voir le patron, là, et la porte ouverte, d'ailleurs. Même pas besoin d'aller voir la secrétaire. Tu rentrais.
Ouais, mais ça, c'est rare aussi.
Bon, ça, c'était à Canal, mais... Ouais. Non, mais dans le principe...
Et le Canal d'antan. Le Canal d'antan. Parce qu'aujourd'hui, tu pousses pas ta porte et tu vas voir Bolloré, hein.
Je ne sais pas, je le connais pas.
Non, mais je t'oblige pas de dire du mal. N'aie pas peur.
Je ne connais pas vraiment. Tu me couperas ça. Non, je ne connais pas. Je connais pas vraiment. Mais...
Non, là, ils sont sur le plan de l'image et de la liberté qu'incarnait Canal et donc de la créativité incroyable que ça a pu représenter.
Ouais, c'est fou.
Là, ce qu'ils ont fait, c'est du massacre.
C'est un peu triste, hein. Ouais.
Le massacre. Je pense qu'en plus, en termes uniques, si on devait même s'arrêter à la question financière, fric, etc., c'est du sabordage d'une image qui était excellente, y compris pour ça. Ouais. Mais bon.
Après, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve Canal dans plein de petits endroits, quoi.
Oui, tu as raison. Tu as raison, ils ont... il y a une culture Canal KSM.
Ouais. C'est ça la force.
Ouais,
là.
Mais...
mais je suis d'accord, ça a
été... il y a eu des dégâts, quand même.
Ouais.
Enfin, moi, tant que Canal investit dans le cinéma, ça me va. Parce que sans Canal, le cinéma français pourrait pas vivre. Tant qu'ils continuent à investir, je...
Et c'est quoi, d'ailleurs, l'avenir de ça? Moi, je vais prendre du fromage. Hein.
Du fromage?
Trop bon. C'est régalé, hein.
Ça, ça peut être bien, ça.
Il y a des chances.
Ça.
Ganache?
Ouais.
Ganache chocolat? Prends un peu de fromage d'abord?
Non, ça va. Café direct. Toi, tu prends du fromage?
Fromage, ganache, café.
Mais qu'il prenne son café, hein. C'est notre hôte. Hein. Notre invité, il fait ce qu'il veut.
Non, mais tu veux
il peut se barrer et jeter son micro. Il fait ce qu'il veut.
Casser les verres.
Si tu veux jouer un morceau de guitare, tu amènes la guitare pour David?
Non, mais je sais pas jouer de la guitare.
Mais moi non plus. On est très bien reçus. Moi, c'est ma journée libre. Moi, je travaille pas aujourd'hui.
Ouais, non, vas-y. Hein.
C'est des conversations, on a dit. Merci, monsieur.
Merci à vous, monsieur.
C'est que le fait de travailler tous ensemble, est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément, d'accord?
Pas sous la forme dont tu parles.
Au niveau gouvernemental.
Une espèce de palais où il y aurait tous les ministres. D'abord...
C'est pas forcément une bonne idée.
Non, ça, mais parce c'est pas forcément plein de gens une bonne qui... idée. Mais derrière l'idée de faut être plus simple, faut se parler plus rapidement, faut avoir accès aux uns aux autres plus simplement. Ouais, bien sûr.
Ouais, ouais.
Bien
parce sûr. Que quand tu regardes, je sais pas moi, n'importe quel ministre est débarqué, bon ça marche pas, ça c'est comme dans une entreprise. Dans une entreprise, moi demain, on me veut pas sur un tournage, on m'a pas pris. Hop, on a pris quelqu'un d'autre, on n'est même pas au courant. Dans le côté gouvernemental, t'as un ministre qui part, il y a un protocole, donc il part. Là, aujourd'hui, on annonce à cette heure-là, il est 13h30, le ministre de l'Agriculture s'en va. Demain, il est 13h30, là, demain, il y a toute une cérémonie avec tous les gens du bureau qui vont applaudir, remercier... Et en fin de soirée, le mec bosse. Non mais, dans quelle société ça existe, ça? Dans quelle...
Quand c'est les patrons.
Non mais tu peux pas avoir un discours patron. Pour dire « Oui, Fred s'en va, il n'a pas été pris dans le casting. » Donc, je tenais à remercier tout le monde, la directrice de casting. Non mais tu vois ce que je veux dire?
Non mais... Ouais, parce que c'est pas exactement...
Non mais, il y a une sorte de
mais
protocole.
Mais si Bolloré s'en va,
non, mais...
il va y avoir une petite cérémonie, tu vois.
Je ne sais pas, je ne travaille plus...
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Ce que je veux dire, qu'il y a un truc un peu de protocolaire, merci,
oui.
Qui est un peu... Non, mais c'était pour juste rebondir dans ce que tu disais, dans la simplicité de dialogue avec les gens, comme on fait aujourd'hui, où c'est super cool.
Non, enfin bon, quand même, il faut se dire qu'un ministre, c'est le patron politique sur un sujet qui concerne tous les Français, donc c'est...
Oui, c'est très
c'est
important.
Pas moins... qu'un patron d'entreprise. Et quand le patron d'entreprise part, il y a un petit cérémonial. Mais,
un pot de départ.
Mais quand même, ce que je veux te dire, c'est que si par là, tu veux dire le côté protocolaire en France est très poussé...
Oui, généralement, d'ailleurs.
Ouais,
mais pas que de la politique.
Mais hein. Tu as raison. On vit... En fait, il y a plein de choses qui ressemblent à des rites de la monarchie, de l'époque des rois. C'est, par exemple, tu vois, c'est marrant, ça en jette, mais quand je suis vice-président du Sénat, quand une séance va s'ouvrir, je suis dans une salle, j'attends, on annonce Monsieur le Président, les portes s'ouvrent, je traverse le couloir en tapis rouge. Il y a la garde républicaine tout au long. Et je vais jusqu'à m'asseoir. Je rentre dans l'hémicycle et je dis aux gens de s'asseoir. Et la séance est levée. Bon. Les amis qui m'ont vu faire ça, ils disent...
Non mais d'accord, mais on est d'accord, voilà. C'est ça que je voulais dire.
Et qui disent, on croirait à l'époque des rois, quoi. Alors... C'est un truc très français, en fait. Même l'Élysée, la présidence de la République, tous les trucs, la cavalerie, le machin. Bon, en réalité, c'est bien quand il y a un peu de solennité. Parce que la République, il faut quand même qu'elle... Voilà, il y a une espèce de respect, de trucs carrés, tout ça. Mais pour se légitimer, la République a emprunté plein de trucs à la monarchie parce qu'ils pensaient que les Français aimaient ça, en fait. Donc, ils aimaient quand même un peu le roi aussi. Donc, le président de la République, il a quand même beaucoup de pouvoir et tous ses rituels, machin, etc. Et donc, je trouve, dans plein de domaines, la République a recyclé des choses qui existaient de la royauté, etc., en termes de protocole, d'apparat, et que probablement ce sont des choses qu'il faudra renouveler, moderniser.
Je pense, parce que tu vois...
Parce qu'entre nous et le Danemark, tu vois, il y a quand même...
Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand tu as les pays, oui, quand tu vois les pays nordiques, ouais, tout le monde ne connaît pas.
Ouais,
moi, je connais
regarde,
parce que j'ai de la belle famille là-bas.
Ouais, mais regarde. Eux, ils ont gardé leur roi.
Oui.
Donc, ouais, mais... c'est-à-dire, nous, on a enlevé le roi.
Ouais, mais est-ce qu'il...
Et on a... On s'est presque un peu excusé en prenant des choses
en
qui...
En grappillant voilà. des trucs à droite
Ceux
à gauche.
Ceux qui ont gardé les rois, ils ont ça, l'apparat et tout ça, c'est pour le roi, parce que ça existe. Ils ont leur palais, ils ont leur machin. Ouais. Voilà, c'est quand même d'un autre âge, hein, les rois.
Oui. Ouais, c'est un peu
et
flippant.
Et le reste de leur société est très, très moderne, comme si ça serait à étudier sur le plan psychologique, la psychologie d'une nation ou d'une société, non, ce que ça signifie.
J'ai pas de réponse.
Nous, je pense que sur le plan politique, c'est mieux, parce que la République est un régime plus démocratique et plus universaliste et plus respectueux de l'égalité. Qu'un régime où on dit qu'il y a des monarques qui s'héritent entre eux, qui ne sont pas élus, qui... Donc, là, on est, nous, dans une plus grande modernité. Et
en même temps,
sur la forme, on a gardé les formes de l'aristocratie, de la monarchie. Et là-bas, ils ont gardé une cohabitation avec un truc un peu bizarre, quand même, les monarchies.
Ouais, mais là-bas, la monarchie, elle n'a pas... Grand,
d'accord, sauf que... Et alors
grande décision, elle n'a pas de grande décision.
D'accord, mais alors pourquoi
mais
elle
moi,
est
je
encore...
Je préfère avoir le roi, mais d'un autre côté, ne pas avoir la nana qui te porte à l'Elysée le parapluie, le mec de la garde de républicaine qui est comme ça, le mec avec des gants blancs, une queue de pie qui t'ouvre la porte. Non, mais ça fait pas... Moi, non, aujourd'hui, ce qui est marrant,
ouais,
à mon âge,
tu as raison,
pourtant, j'ai 45 ans...
moi, je préfère pas,
je trouve ça un
mais
peu...
je trouve qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir et la République... et un peu plus de simplicité
non, mais je trouve que c'est dommage.
Dans les mœurs républicaines.
Voilà, ça serait mieux... Enfin, moi, je trouve que ce serait plus agréable de simplifier et en même temps de garder toujours, d'apprendre aux gens le respect, le savoir-vivre et le vivre ensemble et le... Enfin, tout ce qui
non, mais tu as
nous
raison,
anime.
Tu as raison.
Des
tu
vraies règles de... On doit respecter l'autre et on doit respecter les hommes et les femmes à égalité, etc. Mais tout ce truc-là, pour moi, sert plus à grand-chose aujourd'hui. Peut-être que ça a servi à un moment donné, hein.
Non, mais tu as... A priori, c'est quelque chose qui va, j'espère, arriver à,
et même
avec les nouvelles générations, petit à petit. Mais il ne faut pas confondre deux choses. Tu ne le fais pas, hein, mais...
Ouais.
La fonction de responsabilité élective, élue par le peuple, représentant de la République, de la nation, etc., il ne faut pas la galvauder non plus complètement. C'est quelque chose qui doit être respecté.
C'est très important,
parce que,
je suis d'accord.
Tu vois, là aussi, on est dans une tendance bizarre. C'est qu'on garde des formes qui sont peu remises en question, que toi, tu remets en question, mais peu remises en question. Par contre, il y a une espèce de d'irrespect et de...
La fonction
ouais.
Ah oui, non, ça, je ne suis pas d'accord.
Moi, je vois que ça a dégénéré depuis 2004, que je suis sénateur. L'homme, le parlementaire n'est plus du tout respecté. Je veux dire, c'est pas d'être au-dessus des autres, c'est être au moins comme les autres. C'est-à-dire, c'est le politique, ça devient le pire personnage de la Terre, alors qu'ils sont tous... Bien sûr qu'il y a eu des pourris dans la politique. Il y a des gens... qui peuvent peu respectable parce que même peu respectueux des autres. Qu'il y a, des feignants, il y a... Ça existe, comme d'ailleurs partout. Et en même temps, j'ai pas envie de me satisfaire qu'on dise comme partout, parce que comme c'est des fonctions qui nécessitent de l'exemplarité, faut pas qu'il y en ait du tout. Donc, qu'il y ait une exigence, que ça ouais, doit être normal. Hyper clean, je suis d'accord. Sauf que on peut pas dire ça et fermer les yeux sur tout un tas d'autres. Là, dans le monde de la finance, dans le monde du grand patronat, dans le monde des entreprises, voire même dans le monde artistique, t'as quand même des sacrés oseaux qu'on adule. Les mêmes qui vont dénigrer et dire pique-pendre de quelqu'un parce que c'est un politique. Ouais. Donc il faut faire attention parce que quand il y a une telle laissée-aller de vindicte anti-politique, ça se retourne contre les gens parce que derrière... C'est le populisme et au sens la porte ouverte aux dictateurs. Qui tout le temps viennent en disant voilà, c'est tous des pourris, les politiques et tout. Lui, il est encore plus pourri que les autres, mais il va nettoyer.
Je pense justement que c'est cette distance avec le protocole, avec le fait que, je sais pas, tu te souviens à l'époque, entre Hollande et Sarkozy, on a tellement commenté le fait qu'il ne leur accompagne pas à la voiture. Ben voilà, ça c'est le protocole qui abîme des choses, alors que ça aurait été plus intéressant de les voir les deux ensemble et de dire, ben voilà, je vous transmets la France, essayez de faire bien et je vais vous donner 2-3 clés que j'ai apprises avant et j'espère que vous saurez les ouvrir après. Je sais pas, il y a un truc qui est protocolaire en fait, qui met une distance avec les gens et...
Peut-être que c'est ce qu'ils se sont dit avant.
Ouais, peut-être, en plus, peut-être que, voilà, avant, ils se sont échangés des codes nucléaires et les infos sur les.
Mais ce qui va être.
Est-ce qu'on va retenir, c'est juste.
Une image.
J'ai pas raccompagné l'ancien président jusqu'à un truc. Ils retiennent que ça aujourd'hui, parce que c'est horrible. On a une politique de l'immédiateté, enfin, une.
L'image, de l'image.
De, voilà, de la télé-réalité, en fait, partout. Et du coup, le vrai sujet. Et je me posais la question de savoir est-ce que c'est pas tout ce protocole qui abîme ça plutôt que de dire bah nous, concrètement, on veut faire ça, ça ou ça. C'est non, pas non, assez simple comme on est là en train de discuter et c'est cool et qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de roublardise, de. On essaye de comprendre, d'être intéressé par des choses, et que ça manque.
Ça va bouger tout ça. Déjà, la tendance, c'est que ça bouge.
Oui, la tendance, c'est que ça bouge.
Non. Je dis, il y a une autre tendance aussi, c'est que ça bouge dans le discrédit total de la politique. Et ça ne sera pas bon. Comment sont arrivés au pouvoir les pires horreurs que le monde ait à sa direction ? Aux États-Unis, Trump. Le mec, tous les politiques, moi je viens du monde de l'entreprise et tout, tu parles milliardaire avec les mœurs les plus dégueulasses qui soient. Ouais. Et c'est ça qui dirige la première puissance mondiale. Ouais. Ouais. Le Brésil est un continent. Ouais. Bolsonaro, ouais. Une espèce de... Pareil, il est arrivé, moi je viens de nulle part, je vais remettre de l'ordre, tous les politiques sont des corrompus, Bon, le gars, il arrive, il se tape les Indiens d'Amazonie, il accélère la désertification du poumon de la Terre, il dit des horreurs sur les femmes, sur les homosexuels, il s'en prend aux Noirs du Brésil, qui sont quand même au moins la moitié de la population. Enfin bon, et puis tu regardes en Europe centrale, Orban, la Hongrie, la Roumanie, maintenant l'Autriche, il y a une espèce de vague populiste, en Allemagne ça pointe son nez, Boris Johnson en Angleterre. Bon. Et nous, Marine Le Pen, elle n'est pas loin.
Non, mais c'est pour ça que je pense que avoir plus de simplicité, c'est aussi rattraper plein de gens. Parce que c'est ce que les autres leur vendent, une sorte de simplicité. Et ils arrivent à avoir les gens là-dessus, j'ai l'impression. Hein.
T'as raison.
Sur le contact direct.
T'as raison,
autres, disent, bah ouais, c'est vrai, en même temps, il est tellement loin... Ces gens-là sont dans des protocoles incroyables. Et les autres disent, bah, avec moi, c'est plus simple. Moi, je suis là au contact des gens. Et en fait, il n'y a plus ça. Et quand bien même, ils font des contacts avec les gens au salon de l'agriculture ou autre, il y a 660 000 gardes du corps, de machin. Enfin, on n'est plus dupes. Celui qui arrive dans la sphère pour serrer la main, on sait qu'il a été fouillé, changé de slip mille fois. Non, mais on le sait. Non, mais aujourd'hui, en plus, avec l'image, avant, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, on l'a, donc il n'y a plus besoin. Aujourd'hui, il faut être plus...
T'as raison. Mais en même temps, tu es dans une situation où quand tu veux aller au contact sans protection et tout, tu prends des risques. Non, parce
bien
que
sûr.
Il y a un nombre de ouf.
Non, mais bien sûr.
Il y a un nombre de tarés, violents.
Non, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Mais il faut alléger ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait permettre, par exemple, au Luxembourg d'avoir un terrain de foot.
Il n'y a pas.
Mais qui revient sur les trucs qui n'ont rien à voir.
Il n'y a pas.
Il y a pas le, il y a la dalle qui est en béton qui... Si un jour un avocat se met là-dessus, des mal, au niveau des enfants. Il y a la dalle pour le jeu de paume. Il n'y a pas de terrain multisport. Avec de la moquette, on peut tomber dessus sans se faire mal.
Donc ça, c'est ta revendication pour ton quartier, c'est ça?
Ouais. Ben voilà ma revendication.
On va transmettre. Hein, je veux dire, Fred, il veut une pelouse synthétique. Ça, ou alors... Tu sais, ces revêtements pour les enfants, pour pas qu'ils se fassent mal.
Sur la dalle, ça serait trop bien. C'est vrai qu'il y a des trucs à faire plus... Mais c'est un peu pareil, hein. C'est un peu un résumé aussi, ça. Le jardin, il pourrait être le... une sorte de nouveau vivre ensemble. Que t'as des trucs, tu dis, ça coïncide pas et que ça... c'est tellement génial, comme les horaires. Faut les changer, quoi. Et les trucs...
Toi, tu es sur l'idée que la politique doit se simplifier.
Ouais.
Pour être plus accessible.
Je pense que la politique doit se simplifier pour être plus accessible, comme dans chaque métier, où à chaque fois, ça met des barrières qui nous font perdre du temps. Mais dans notre métier, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai connu des gens avec qui tu manges comme ça, et tu vois là une petite fille qui arrive, qui a 6 ans, et qui dit « je voudrais un autographe », et la personne en face de moi dit « non, mais là, je suis en train de manger tout à l'heure ». C'est un bon résumé. Là, je parle pas, je veux pas du tout mettre le point noir sur la politique. Je peux parler de mon métier, et Dieu sait si j'ai des exemples. Et tu dis, mais c'est pas possible. Et toi, t'es en face et tu fermes ta gueule et tu dis, mais... Donc je ferme ma gueule là, alors que un jour, peut-être, j'aurai des enfants. Donc ça, c'était il y a longtemps. Et tu te dis, ben, moi, ma fille, elle vient là, elle demande un autographe. Et le mec, il dit non. Tout à l'heure, parce que là, je suis en train de manger. Et là, tu te dis, bon, bah d'accord. Voilà.
Ouais, mais ça, c'est aussi les gens.
Pour faire un parallèle.
Ça, c'est pas seulement lié aux fonctions ou aux institutions.
Exactement.
Il y a des gens comme ça. Il y a des gens simples, c'est des gros cons. Hein.
Non, mais c'est pour ça que c'est important de le préciser. Et qu'aujourd'hui, c'est pas ça que... Enfin, c'est ce qu'on dit ensemble. C'est que, justement, toi, tu fais de la politique. Moi, je suis comédien et que c'est... On fait pas de généralité. Justement, c'est pas le... Au contraire. Parce que sinon, on serait mal. On n'est pas pour taper du sucre sur le boulot, hein. Mais c'est intéressant de se poser la question. Après, qu'est-ce qu'il en adviendra? Toi, tu voudrais faire quoi après?
Après la politique?
Ouais.
Moi, quand je suis devenu sénateur, je pensais que ça serait temporaire.
Pareil pour moi, comédien.
Je ne me projetais pas en me disant, voilà maintenant je suis sénateur. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte, tu ne peux pas faire beaucoup d'autres choses si tu le fais à fond. J'ai toujours fait à fond ce que je fais. J'ai du mal à concilier plein de choses. Alors, je réussis à préserver l'aspect famille. Et encore, ils ont toujours considéré que c'était pas assez, mais bon, moi, je fais la cuisine, je fais le marché. Mais il y a des moments, des périodes aussi, des périodes de campagne électorale, de machin, de trucs, où on est beaucoup moins là. Mais j'ai du mal à faire à moitié. Maintenant, je veux une troisième vie. Et cette vie serait faite de tout ce que j'aime et que j'ai pas eu le temps de faire. Pas un truc. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de refaire du doc.
Mais moi, c'est exactement
j'ai envie
ce que je me dis
de voyager, j'ai envie de glander, j'ai envie de passer des soirées avec un feu de cheminée. J'adore la nature, j'adore me balader dans la nature. Prendre le temps, être moins stressé. C'est ça que je ferai, quoi. Quand je vais finir mon mandat sénatorial, je vais faire plein d'autres choses, plein. J'ai envie d'avoir gardé un petit pied à terre à Paris, avoir un pied dans le sud. Moi, je peux pas vivre sans soleil.
Moi non plus.
C'est dingue. C'est dingue, c'est,
c'est une horloge biologique.
C'est un élixir de vie.
Hein. Bien sûr, mais c'est de la vitamine D. Hein.
Ouais, mais il y en a, ils s'en foutent. Hein. Ah non, là, ils sont nés en Norvège. Il y en a qui s'en foutent.
Ah, mais
toi, pas... tu es d'où, toi?
Moi, je suis du sud aussi.
C'est quoi?
Bah, Nice et la Corse.
Ah ouais. Ah ouais.
C'est les deux. Après, il y a plus au sud, hein, comme toi.
Ouais, mais bon, ça suffit. C'est la Méditerranée. C'est... Tu me diras, bah, bientôt, on va chercher autre chose, hein, avec le réchauffement climatique, tu vois.
On va l'avoir, ça.
Oh là, ah bah, là, alors lui, il va sortir bien bourré, lui. Hein.
Non, l'hydratation, c'est 14 heures. Un sujet qui...
Oui, mais c'est une hydratation alcoolisée, on va dire.
Oui, mais l'important, c'est quand même
d'alterner. De toute façon, on a terminé.
Après, il reste avec moi tout
l'après-midi. Là, on a causé combien de temps, là?
Très bon, enfin, ce fromage.
Lui, il ne cause pas beaucoup. Hein. Fred, c'est
ouais,
pas un
c'est
causant,
pas intéressant,
en fait.
Moi.
Mais si, moi, ça m'intéresse. Qui es-tu, Fred?
Je suis une femme de 35 ans. Je m'appelle Christiane. Et j'adore le bowling. Non, non, mais c'est intéressant, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut parler à...
Ouais, non. Mais...
À des David.
Pas, je ne sais pas si je t'ai intéressé, mais...
Mais si, justement, c'est ça le but. Toi, t'es dans un endroit, quand même, je suis désolé, qui est un petit peu... C'est à
spécial,
part, quand même.
Ça,
c'est spécial, le Sénat, quand même. Non, mais c'est hyper intéressant, et je te dis qu'il y a plein de gens qui
temps,
se demandent...
En même temps, ça dépend d'où tu regardes les choses. Moi, je suis devant ma télé, ouais. Je vois un match de foot. Je rêve d'être à la place de l'entraîneur qui coach Neymar et tout ça.
Bah oui.
Mais putain, mais quelle chance il a eu. Quelle
oui,
chance
d'accord.
Il a eu. Des fois, je vois un film ou un comédien dans un... Ah là, ce que j'aurais aimé jouer ce rôle. Bon.
Mais tu vois,
et pour moi, comme si c'est l'inaccessible, comme si c'est la... Donc, ouais, chacun a son truc.
Chacun son truc. Moi, c'est pareil quand je me dis, tiens, ce que tu fais ou ce à quoi tu participes ou ce qu'un chanteur fait, t'es là devant, de chanter devant des gens, de communier comme ça, je me dis, c'est extraordinaire, tu vois.
En même temps, il y a des choses, tu dis, j'aurais pu les faire. Donc, quand je t'ai dit, par ouais. exemple, entraîneur,
bah oui.
football pro, comédien ou bien même réalisateur, tout ça, je sais que j'aurais pu le faire.
Bah ouais.
C'est dans mes trucs. Mais chanteur, j'aurais jamais pu, parce que je sais pas chanter.
Je ne vais pas chanter.
Donc, j'accepte ma condition. C'est-à-dire, je les regarde, je dis, c'est sympa, je les adore, etc. Mais je me projette jamais dans ce que j'aurais aimé faire ce qu'il veut, parce que je ne sais pas le faire.
Non, mais même après, dans ton métier, moi, je vois... je suis très content d'être comédien. Il y a plein de choses qui m'intéressent aussi d'être derrière. J'ai réalisé aussi, mais j'aimerais me faire plus. Mais j'aimerais produire, j'ai un peu fait, mais j'aimerais plus, donc être derrière la caméra. Mais demain, en tant que comédien, je vois Al Pacino, Robert De Niro ou Leonardo DiCaprio.
Tu t'es voilà. dit mince.
Non, non, je me dis pas mince. Je me dis, moi, je suis très content de faire ce que je fais. Mais voilà des gens où là, il y a un autre niveau et moi j'apprécie et je me sens pas.
Est-ce que c'est une question de niveau? C'est un genre plus qu'un niveau. C'est un,
je sais pas,
c'est un
mais...
style de d'acteur.
Non, mais ça fait plaisir aussi de dire que
t'as des monstres.
T'as des monstres, voilà aussi. Tu vois, c'est intéressant ça. Mais que j'accepte. Moi, je cours pas après
y a
ça.
Il y a une époque, c'est comme ça. On nous a toujours accolé des images ou des
petits. Ah oui, on a toujours.
Moi, on me disait Al Pacino.
Ouais, mais c'est vrai.
Je sais pas
il y a
pourquoi.
Un air.
C'est parce que c'est pas de ressemblance physique et tout.
Non, mais il y a un air, une façon
surtout,
de.
Surtout, il y a une époque, je m'habillais souvent en costard noir avec une chemise noire.
Et... Oui, puis il y a une époque où tu étais en fourrier aussi. Enfin, toi, tu le dis pas. Ça, on le mettra pas dans l'interview. Ça ne nous regarde pas.
Il y en a plein qui. Ça me fait rire.
Non, mais c'est des airs de. Tu peux avoir un air de.
Ouais, tout le monde a un air de. Du moins que t'as pas un air de.
Du moins que t'as pas l'air d'un con.
Bon, bah, sur ce,
on va y aller. On va prononcer
la même phrase au même moment. Ou...
Voilà, je pense que là, on peut te libérer. Hein.
Ok, c'était très sympa. On se revoit quand tu veux, sans micro.
Ouais. Il suffit avec tes micros.
En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et Cocojet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Fries. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.